Et tout de suite, eh bien, c'est le moment de retrouver, bien sûr, notre émission mensuelle « Un moment pour la Terre » qui a lieu chaque dernier mercredi du mois. Et voilà, bonjour Martine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous êtes venue avec une invitée.
C'est ça, je suis venue donc avec Françoise Tellier, qui fait partie de notre conseil d'administration et qui est notre représentante à la CLI de Cadarache. Donc la CLI, commission locale
d'information. Donc notre objectif, c'est d'informer la population environnante du site.
Alors, Cadarache, oui, on aura évidemment plein de questions là-dessus. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les énergies électriques.
Voilà, le thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est la production d'électricité, donc à partir de quel type de matériaux, de différentes formes d'énergie. Et notamment, on va, je pense, parce que c'est une question qui est très vaste. Et donc, on reviendra certainement une autre fois sur une autre émission avec les questions d'énergie. Aujourd'hui, on va plus précisément évoquer la question du nucléaire, notre situation aujourd'hui en termes de production d'énergie électrique, puisque en France, on est vraiment sur un fonctionnement plus que majoritairement à partir du nucléaire. Alors, pourquoi évoquer ce sujet aujourd'hui ? L'actualité nous donne certains éléments qui font qu'on s'est dit que c'était important d'en parler lors de cette émission. Tout d'abord, on vient de terminer, donc le 6 juillet, s'est terminée une enquête publique concernant le démantèlement d'un des réacteurs de Cadarache, donc qui... On reviendra après. Donc, il est appelé Rhapsody. C'est un réacteur donc, qui a été construit il y a pas mal d'années. Et donc, le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que très peu de contributions ont été faites par le public lors de cette enquête publique. Alors, c'est vrai que les enquêtes d'utilité publique sont peu suivies. Mais là, c'est quand même dommage que les gens ne se soient pas plus manifestés. Donc, c'est un des... L'année dernière, une autre enquête, hein, c'est l'année dernière, Françoise.
Oui, l'an dernier, nous avions eu aussi l'enquête publique sur la TUE. Et c'est pareil, il n'y avait pas énormément de personnes qui se sont intéressées à essayer de déposer des observations sur les cahiers des enquêteurs publics dans les mairies.
Donc la TUE, c'est un nouveau réacteur qui
doit être construit. Non, ce n'est pas un nouveau réacteur, c'était l'atelier de traitement du plutonium.
Voilà, d'accord.
La TUE, c'est l'atelier de traitement de l'uranium enrichi. Parce qu'il y a aussi la TPU, donc je confonds un peu.
Voilà. Donc, et là aussi, il y a eu très peu de contributions. De la même façon, bon, en termes d'actualité, on a eu cette année, donc en début d'année, un débat public organisé sur la programmation pluriactuelle de l'énergie. Donc, débat public veut dire possibilité pour les citoyens de participer, de donner leurs opinions, etc. Donc là, ça a un peu mieux marché, mais quand même, c'est dommage qu'on se manifeste pas plus et que la population ne soit pas plus présente lorsque, justement, il y a une ouverture à la discussion. Donc, pour cette émission, on souhaitait envisager donc l'état des lieux. Enfin, qu'est-ce qui aujourd'hui en France, notre électricité est produite à 77%, je crois, quelque chose comme ça, ouais, à partir du nucléaire. Ça veut dire donc un certain nombre de structure, etc. Ça veut dire qu'est-ce qui est organisé sur le plan de la surveillance. Ça veut dire quels sont les risques potentiels qu'on peut imaginer ou qu'on peut voir. Et puis, la question, c'est aussi, à partir de là, que faisons-nous ? Est-ce qu'on se dit, bah, tout va bien, on continue comme ça et on ne réfléchit pas plus loin ? Ou bien est-ce qu'on se dit, la transition énergétique, on en parle, comment la mettre en place le plus vite possible, le plus possible, le mieux possible ? Quelles sont les alternatives envisageables ? Quelles pistes d'action est-ce qu'on a ? Voilà, en gros...
Le thème de cette émission.
Le thème de l'émission, en espérant arriver à...
dans le timing.
Dans voilà. Le timing. Donc, alors, pour ce qui est de l'état des lieux, on a en France 19 centrales, ce qui fait et dans chaque centrale, il y a plusieurs réacteurs. C'est-à-dire que ça fait... en fait, on a 58 réacteurs en France... qui ont un âge moyen de 32 ans. Certains sont, ont 16, 17 ans, d'autres sont plus âgés. Bon, voilà, 32 ans, c'est la moyenne. Il peut y avoir entre 2 et 6 réacteurs par centrale. Alors, en PACA, bon, on va rester sur notre belle région, on a 21 réacteurs.
Alors, disons qu'au CEA, à
CEA.
Il y a 21 réacteurs civils pour la recherche et il y a une unité, enfin une INB, c'est-à-dire une installation nucléaire de base secrète qui est pour la propulsion navale, pour tout ce qui est nucléaire, la propulsion navale, donc des sous-marins et du Charles de Gaulle, du porte-avions. Voilà.
Qu'est-ce qu'on appelle 21 réacteurs civils ? Qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs installations nucléaires de base, et dans chaque installation nucléaire de base, il y a un réacteur. Mais c'est un réacteur de petite taille pour la recherche. Voilà. Mm-hmm.
Oui, donc c'est, quand j'ai dit 21 réacteurs, c'est assez énorme. Mm-hmm. Françoise m'a dit, mais c'est des petits réacteurs. Mm-hmm. Enfin, en gros, c'est des bombinettes. Voilà. Mm-hmm. C'est pas vraiment le gros Tchernobyl, mais mm-hmm. bon, voilà.
Et sur Marseille, nous surveillons aussi Gamaster, qui est un ionisateur pour tout ce qui est matériel médical, les prothèses, éventuellement aussi des produits alimentaires. Et cosmétiques aussi.
Oui, donc puisqu'il y a certaines choses qui nécessitent une irradiation, donc cette structure-là est faite pour... et donc ça, c'est
c'est à Marseille, oui.
Voilà. Donc, en gros, enfin, on est quand même relativement bien... donc 58 réacteurs sur la France, je veux dire, un réacteur en lui-même est vraiment quelque chose déjà de potentiellement risqué et fragile en termes de sécurité des populations environnantes.
Et un petit réacteur peut être aussi dangereux qu'un gros réacteur.
Mais il y a des risques, c'est sûr, mais disons que c'est quand même moindre qu'une centrale, ça c'est clair. Mmh. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même que 21% des centrales françaises sont sur la région Rhône-Alpes. Hein, donc tout le long du Rhône, en fait, on en a 21%. Donc ça veut dire... pour nous, localement, enfin, des risques potentiels, quand on voit l'impact de Tchernobyl, quand on voit l'impact de Fukushima, bon, on est quand même très près de ces risques potentiels. D'autant plus que chez nous... alors, il y a la question de l'âge des centrales. Donc ça, c'est pour les centrales de fabrication d'électricité. Mais si nous, on considère Cadarache, donc où on a, c'est essentiellement un site de recherche. Enfin, c'est pas un lieu de production d'électricité. Hein, la plupart des réacteurs qui sont là sont, alors, je ne parle pas d'ITER, où effectivement, là, c'est carrément les nouvelles recherches. Mais même les autres sont des réacteurs... qui sont pas destinés à produire de l'électricité. Non. mais qui sont situés sur une zone sismique. Le problème de Cadarache, c'est quand même qu'on est vraiment sur un secteur, quand on voit, je veux dire, l'événement de Lambesc, par exemple, ça a été échelle 6, le degré 6 sur l'échelle de Richter. Je veux dire, c'est un tremblement de terre important. Donc, il peut entraîner de grosses difficultés.
Oui.
Donc, voilà.
Oui. Le site est situé effectivement sur la faille de la moyenne durance. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ils démantèlent un certain nombre d'INB parce qu'elles ne sont pas, résistantes aux effets sismiques. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous avons quand même un certain nombre de démantèlements. Et qui, dans l'avenir, il y en aura encore d'autres.
Alors. Donc ça signifie, alors je veux dire, c'est quand même aussi quelque chose qui est très surveillé. Et donc on a en termes de surveillance, la commission locale d'information, donc où siège Françoise, donc qui est l'organisme qui permet de demander des comptes, de vérifier certaines choses, de poser des questions, de récupérer les informations pour effectivement les diffuser au niveau du public et éventuellement de faire l'inverse aussi, d'une sorte de médiation, je dirais. À l'échelle de la France, on a ce qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui est l'entité qui, au nom de l'État, contrôle la sécurité des centrales nucléaires. C'est-à-dire que c'est eux qui allument les feux rouges quand il y a un souci et qui en informent le public globalement. Donc leur objectif, c'est vraiment de protéger en fait les travailleurs, le public, enfin les citoyens, l'environnement de tout risque potentiel. Et donc, on a effectivement une sorte d'échelle qui est utilisée pour catégoriser le type de risque. Depuis l'anomalie, donc un petit problème, un incident pas trop grave, un déroulement de transport, par exemple, qui s'est mal effectué, ou bien une erreur humaine. On a le 2, donc l'incident, et puis le 3, l'incident grave, le 4, l'accident local, le 5 avec des causes étendues, et le 6, accident grave, et jusqu'au 7 qui est l'accident majeur, donc Fukushima, Tchernobyl, c'est niveau 7. Voilà, jusqu'à présent en France, de ce que j'ai vu, on est allé jusqu'au niveau 4. C'est ça.
Je peux pas parler pour les autres centres, mais disons que pour ce qui concerne Cadarache, en général, ça ne dépasse pas le niveau 1. Et on est informé systématiquement à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, un événement significatif. Ça nous est transmis tout de suite et on est amené à étudier et on attend après les retours des enquêtes qui sont faites sur place. Et ce qu'on appelle le CRES, c'est ce qui a été décidé de faire. Voilà.
Donc, cet organisme de surveillance, l'autorité de sûreté nucléaire, elle est constituée globalement de 5 commissaires, dont 3 qui sont nommés pour 6 ans. 3 sont nommés par le président de la République, 1 est nommé par le président du CEDA et 1 par le président de l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont, en termes de membres opérationnels, je dirais, 483 agences, donc sur l'ensemble du territoire français, qui surveillent un peu tout ça, qui vérifient que la réglementation est appliquée, qui font des contrôles et qui font l'information du public. Alors, sur le plan des risques, il y a plusieurs types de risques qui bien sûr, peuvent intervenir. Donc, par exemple, des risques que j'appellerais quotidiens, qui sont les possibilités d'erreurs humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc ça, on l'a vu par rapport à l'enquête publique et au dossier qui a été donné donc, sur ce Rhapsody. Donc
c'est une INB.
Voilà, cette INB.
Et alors, INB, redites.
C'est installation nucléaire de base.
D'accord.
Donc, alors, cette installation, elle a été créée. Elle a démarré. Alors, c'est un surrégénérateur du type donc plutonium, hein, oui. Type phénix, super phénix. C'est les mêmes styles.
Mais le gros souci, c'est le sodium. C'est un refroidissement à sodium. Et il faut savoir que le sodium et l'air, ça ne fait pas bon ménage et que ça fait des explosions.
Et donc, les débuts de cette installation, elle a démarré en 66 ou en 83, je ne sais plus si
non,
c'est...
Non, elle est arrêtée en 83.
Voilà, c'est ça. Elle a démarré en 66 et elle a été arrêtée en 83 suite à un problème. Et donc, en 87, on commençait le début des travaux de démantèlement. C'est-à-dire 1987, les débuts des travaux de démantèlement parce que ça ne fonctionnait pas bien. Et qu'il y a eu des problèmes. En 1994, un accident grave dans les travaux de démantèlement, au cours de ces travaux, et un ingénieur est décédé. Et il y a eu d'autres qui ont été atteints aussi, mais bon, il y a eu donc à faire passer en justice, etc. Enfin bon, c'est une histoire qui a... Il y a eu 11 ans d'instruction qui s'est terminée par un non-lieu. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle procédure qui est plus ou moins lancée. Mais ça, bon, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Mais bref, donc ça signifie, si on prend cet exemple-là, qu'un réacteur qui a été mis en place a commencé à avoir des incidents très rapidement et que le démantèlement qui a démarré... Donc, en 87, n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Et qu'on reprend, donc il a été arrêté, et on reprend aujourd'hui, suite à l'enquête publique, ce démantèlement-là.
Oui, il y a eu une période d'enquête suite à l'accident. Et en plus, après, il y a eu des travaux de réhabilitation pour que ce soit correct, enfin, disons, sécurisé. Mais après, donc, il a fallu du temps pour... il y a eu du temps qui est passé entre l'enquête, les travaux, tout. Et maintenant, on recommence à faire une enquête publique pour faire ce démantèlement. Donc, suite à ça, en fait, il faut savoir que c'est estimé. Il faut savoir quand même que ça coûte très cher, le démantèlement. C'est estimé en 2013 à 165 millions, ce qui n'est pas rien.
Et donc... Au niveau des risques, bon, ça, je dirais, il y a des risques potentiels différents. Donc là, on a parlé des risques liés à la question du démantèlement, mais les risques habituels existent aussi. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan de ces problèmes potentiels posés par des erreurs humaines, on a... Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de sous-traitants qui travaillent, donc si on reste sur Cadarache, mais dans les autres centrales nucléaires aussi, dans les centrales nucléaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une industrie qui fait appel à la sous-traitance de façon très fréquente. Et c'est une industrie dont les établissements sont aujourd'hui, globalement, on dit 32 ans de moyenne. Ça veut dire que beaucoup arrivent vers 40 ans et donc leur durée de vie qui avait été prévue pour 40 ans. On arrive là pour certains, donc notamment par exemple Fessenheim, on arrive à la limite qui avait été donnée au départ. Alors là, il y a la possibilité par tranche de 10 ans, c'est ce qui se fait en ce moment, de proposer des prolongations après visite de sécurité, etc., de prolonger la vie des centrales pour continuer à les utiliser. Mais un des gros problèmes qui est posé sur ce plan-là, c'est que les salariés qui sont là depuis le début, ceux qui ont l'expérience du fonctionnement, qui connaissent par cœur les lieux, les machines, enfin, tout, Ils s'en vont là, ils partent à la retraite. Ils partent à la retraite, dans certains cas, la passation, la transmission n'est pas faite ou mal faite. Et le fait de faire appel à des intérimaires ou à des sociétés sous-traitantes pour des tas d'opérations différentes fait que y a des compétences qui ne sont plus là, cette histoire est aussi une sorte de culture du risque qui disparaît, donc qui fait que la formation des gens n'est peut-être plus aussi performante et du coup le potentiel de risque augmente forcément. Donc ça, c'est ce que je dirais, un des risques classiques de toute entreprise qui ne prévoit pas l'évolution suffisamment. Sur le plan, donc j'ai parlé de l'implantation qui effectivement peut poser problème. On n'a plus le retour, je ne sais pas. Donc, de ces risques sur le plan humain, mais par rapport aux interventions de sous-traitants, les risques sont aussi par exemple, vous faites intervenir une société qui vient faire les soudures de certaines cuves, etc., de certains éléments. Il n'y a pas très longtemps aussi, je ne sais plus quel... où il y avait un problème de soudure sur une cuve. Je ne sais plus de quelle centrale il s'agissait. Mais... on fait faire par une société sous-traitante. On lui demande, comme le système de fonctionnement habituel de l'industrie ou des entreprises, il faut toujours produire plus, plus vite, etc. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, la qualité, parfois, selon quel est l'intervenant, la qualité n'est pas au niveau suffisant pour des installations nucléaires, je veux dire, pour quelque chose qui a autant de potentialités de conséquences lorsqu'il y a un accident.
Il y a aussi un autre souci, c'est qu'en fait, il va y avoir de la coactivité due à plusieurs risques en même temps, parce qu'il va y avoir le risque nucléaire, c'est une chose, il y aura le risque par rapport au sodium, c'est encore très important, mais c'est surtout par rapport à l'amiante, ça va se trouver dans ce démantèlement. En plus, c'est des personnes qui, pour des raisons techniques, vont utiliser des bouteilles d'azote, donc il faut savoir que ça aussi, ça peut être un risque, c'est pas l'azote particulièrement, mais s'il y a des fuites d'azote, ils risquaient de s'asphyxier. Donc tout ça, cumulé, et c'est quand même très, très risqué comme démantèlement.
Voilà, donc là, on parle de ce démantèlement spécifique comme un exemple de ce qui est nécessaire de prendre en compte. C'est-à-dire là, on a... Typiquement, quelque chose où le démantèlement est prévu, où il se met en place, et donc où on peut se dire quels sont les points, quels sont les éléments de surveillance importantes à vérifier. Alors sur ces questions aussi. En termes de risque, par exemple, on peut revenir deux minutes parce que par rapport, la grande formule aujourd'hui, à chaque fois qu'on lève le doigt pour dire attention, peut-être on va trop loin ou peut-être on fait quelque chose qui peut potentiellement nous revenir et avoir un effet boomerang. La grande formule aujourd'hui, c'est de dire le risque zéro n'existe pas. Donc effectivement, le risque zéro n'existe pas, c'est certain. Mais à l'heure actuelle, on a quand même maintenant une expérience et notamment une expérience de trois grandes catastrophes nucléaires qui sont arrivées à l'échelle mondiale. Donc la première en 1979, c'était Three Mile Island. qui était donc sur notre échelle, c'était niveau 5. Donc pareil, un cœur de réacteur qui a fondu et donc de la radioactivité dans l'environnement. On a eu en 86 Tchernobyl, j'en reparlerai pas. Bon, tout le monde est maintenant bien informé là-dessus. Mais on sait que aujourd'hui, d'après les Nations Unies, il y a aujourd'hui plus de 8 millions de personnes qui ont été exposées aux radiations suite à Tchernobyl. Donc c'est quand même énorme. Et Fukushima 2011 qui continue à diffuser tranquillement de la radioactivité. Je veux dire, la question là n'est pas terminée. Donc c'est vrai que et Fukushima sur le démantèlement, donc ça a été mis hors service. Ils envisagent donc où ils commencent, où ils attendent de pouvoir commencer le démantèlement. Et l'idée du coût, c'est 60 milliards d'euros. Donc là, ça nous fait poser quelque chose aussi. C'est que lorsqu'on nous dit en France, on a une électricité pas chère grâce à nos centrales nucléaires, et si on devait payer l'électricité au prix normal à partir d'autres formes de production, etc., ça nous reviendrait beaucoup plus cher. Mais sur cette question-là, on ne prend pas en compte la gestion des déchets, c'est-à-dire tout ce à quoi aujourd'hui on commence à avoir à faire face, donc les démantèlements. Donc là, on voit 60 milliards d'euros pour une centrale Fukushima. Donc nous, on en a 21, d'accord, plus les questions ensuite de stockage des déchets, parce que le démantèlement, c'est une chose, mais après, il y a la question du stockage aussi, et là aussi, c'est un coût qui se rajoute. Donc effectivement, tout ça, c'est complètement évacué de ce qu'on appelle le coût du nucléaire. Donc ça, c'est un calcul, finalement, qui est pernicieux. Alors, peut-être on fait une petite pause avant de repartir. Bon, juste, la musique est en lien avec la question du risque. Donc je me dis, c'est le moment de faire...
Voilà, alors on va écouter. Donc, « Il y avait une ville » par Claude Nougaro.
Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et donnèrent étonné tout le monde à lever le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Qu'est-il passé? j'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert, de gravats de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi.
Et pour se réveiller à propos des centrales nucléaires, du nucléaire, donc Martine Vallon, pour cette émission Un moment pour la Terre, accompagnée, donc présidente de France Nature Environnement, je le répète, et accompagnée de Françoise Tellier, représentante déléguée à la commission locale d'information de Cadarache. Alors on poursuit, il nous reste un petit quart d'heure.
Alors oui, voilà, donc effectivement, on ne fera pas le tour de la question en un quart d'heure. Simplement, l'idée, c'est de reposer les choses sur des éléments qui ne sont pas... c'est pas du fantasme, je veux dire, le fait de dire il y a des risques, regardons-les, et est-ce qu'on a les moyens de faire face à ces risques, ça me paraît pas être une position complètement stupide de citoyens effrayés, non éclairés, etc. Aujourd'hui, l'opinion publique n'est plus favorable au nucléaire en France. 60% des gens souhaitent que l'objectif de diminution à 50% en 2030 soit effectivement mis en œuvre. On a 68% des gens interrogés qui ne veulent pas de construction de l'EPR. Qui veulent qu'on arrête d'aller dans ce domaine, enfin sur cette forme de choix, sur ces choix. Et 73% des personnes interrogées qui ne souhaitent pas prolonger le fonctionnement des réacteurs à 50 ans. C'est-à-dire qu'on a donné une durée de vie de 40 ans. Aujourd'hui, effectivement, il y a de la surveillance. Bon, OK, on peut dire... dans l'immédiat, on ne peut pas fermer tout comme ça tout de suite, etc. Parce que, en effet, aussi, le démantèlement pose problème. Mais essayons tout de suite de commencer à résoudre les problèmes. Essayons tout de suite de commencer aussi à se dire, n'en rajoutons plus. C'est quand même, quand on va sur la question des déchets, c'est 100 000 ans. Je veux dire, 100 000 ans. Dans 100 000 ans, qui saura où sont... par exemple, enfouis ces déchets nucléaires. Sous quelle forme ils ont été contraints et conservés. On voit aujourd'hui, par exemple, il y a dernièrement une émission d'envoyé spécial en janvier de cette année qui a montré que sur 1200 établissements scolaires, on en avait à peu près 8% qui étaient construits sur des sites pollués. Donc des sites pollués avec des agents différents, hein, du chimique, des métaux lourds, enfin peu importe. Mais ça veut dire... qu'on a construit des établissements recevant des enfants sur des terrains qui étaient susceptibles de diffuser des pollutions diverses et donc d'atteindre leur santé. Donc aujourd'hui, on se dit 100 000 ans pour certains. Enfin, et même 30 000 ans, je veux dire, voilà quoi. C'est, enfin, à l'heure actuelle, une réflexion porte sur comment on va pouvoir garder cette information et la transmettre. On sait qu'aujourd'hui, en termes d'informations transmises sur le plus long temps possible, ce sont les populations indiennes d'Amérique du Sud, par exemple, qui conservent, à travers leurs mythes, la mémoire la plus ancienne, et donc qui savent, c'est-à-dire une transmission orale, à travers des éléments symboliques et des mythes, c'est ce qui permet le plus à l'information d'être transmise aux générations futures. Donc, comment on va faire, nous, qu'est-ce que, enfin, voilà, ne serait-ce que ça. Bon, plus la question aujourd'hui, les lieux de stockage des déchets existants sont saturés, on souhaite en créer d'autres, mais évidemment, d'abord, personne n'en veut parce qu'on se dit, c'est là aussi, c'est un potentiel à risque important. Et puis ensuite, sur la question aussi, par exemple, du projet Cigéo, donc le lieu de stockage qui est prévu pour accueillir tous les déchets. Donc là, la dernière solution, parce que la question des déchets, elle était déjà... Alors au début, on les mettait dans la mer, aujourd'hui... on se dit le plus sûr, c'est l'enfouissement terrestre dans des secteurs où les couches d'argile sont très importantes, et donc ça va être ce qui va permettre le plus de sécurité. Mais bon, les failles sismiques, les mouvements de l'écorce terrestre, les surgissements de volcans, enfin toutes ces choses-là...
Ne nous mettent pas à l'abri.
Oui, on ne maîtrise pas tout ça. Et puis, en plus, sur cette centralisation des déchets, il y a aussi le problème du transport. C'est-à-dire qu'on fait voyager sur les routes des camions,
danger. Oui.
Et donc, ça fait partie aussi du gros problème du nucléaire. Donc,
et la pollution qui s'accompagne, parce que les camions, ça pollue.
Plus, cet aspect-là. Donc, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, l'image du nucléaire reste quelque chose qui est lié avec une sorte de... c'est presque de la foi. Enfin, c'est-à-dire on ne doit pas toucher à ça parce que c'est le haut degré de la science, c'est la technologie la plus performante, etc. Mais c'est une technologie humaine, c'est un degré de science qui va être dépassé parce que de toute façon, l'évolution de la science fait que quand on découvre quelque chose, un certain nombre d'années après, on s'aperçoit que effectivement ça devient obsolète et qu'il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, pour nous, le nucléaire, c'est obsolète. C'est vraiment à dépasser, et il est nécessaire aujourd'hui d'imaginer d'autres formes d'énergie qui soient moins risquées, qui soient renouvelables, qui soient décentralisables. C'est-à-dire aussi, historiquement, le nucléaire, c'est quand même très... civils et militaires sont très très liés, et donc ça entraîne une forme de fonctionnement très très centralisé, très hiérarchisé, une culture du secret, peu d'informations des populations qui, du coup, ne savent pas, en cas d'accident, aller interviewer les gens aux environs, même ceux qui sont dans le périmètre de Cadarache, pour lesquels on a prévu les comprimés d'iode.
Oui, donc en fait, au niveau de la CLI, nous avons déjà fait une enquête comme ça concernant les riverains, savoir comment ils percevaient le risque nucléaire. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a... ils se sentaient très sécurisés. Ils se sentaient vraiment à l'abri, que tout était sécurisé, tout était maîtrisé, quoi. Donc, c'est vrai que Cadarache, il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit contrôlé, mais on n'est pas à l'abri. Mm-hmm. On a toujours le risque humain et puis le risque technique. Hein. De toute façon, ça peut se produire. Donc, voilà. Donc, on en était où au niveau des déchets? C'est sûr qu'au niveau des déchets, pour que ça parle, par exemple, pour un seul démantèlement, allons avoir 2000 tonnes de déchets qui sont radioactifs, plus ou moins radioactifs, mais quand même 2000 tonnes, c'est pas rien. C'est qu'une INB.
Mm-hmm. Oui, donc tout petit. Voilà. L'idée, on voudrait faire passer comme message, c'est de dire il est temps de voir autre chose. les solutions aujourd'hui ne sont pas toutes en place. Mais si on mettait un budget aussi important pour la recherche sur les énergies renouvelables que ce qu'on met pour la recherche sur l'énergie nucléaire, on serait beaucoup plus loin et on aurait déjà beaucoup plus de solutions et beaucoup plus de possibilités. Donc là, c'est là-dessus où on souhaite alerter.
Oui, mais je ne veux pas défendre le CEA, mais il faut quand même savoir que le CEA de Cadarache, ils ne font pas que de la recherche sur le nucléaire. Depuis 2010, il s'appelle dorénavant Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et il est un fait qu'à l'heure actuelle, il y a des services, il y a des laboratoires sur le CEA de Cadarache qui font des recherches sur les micro-algues, sur la biomasse, sur le solaire. Alors, le solaire, c'est l'INES, disons que c'est à l'intérieur de Cadarache, mais c'est indépendant par rapport au CEA, mais c'est quand même en liaison. Il y a le photovoltaïque aussi.
De plus en plus, le photovoltaïque. Voilà.
Donc, il faut quand même savoir. Bon, a priori, ils n'investissent pas les mêmes sommes, hein, c'est clair. A priori, les articles qu'on peut avoir, nous, c'est 120 millions d'investissements par an. Mais par rapport à ce qui est investi dans le nucléaire, c'est disproportionné.
Alors, simplement, peut-être un message aussi, c'est de dire, bon, en termes de transition énergétique, essayons de réfléchir sur, sans diminuer véritablement notre niveau de confort, mais ne faisons pas payer notre confort actuel à nos enfants et à nos petits-enfants. Les voitures électriques, c'est pas forcément une bonne solution, puisque aujourd'hui en France, l'électricité, elle est nucléaire. Donc réfléchissons avant de se dire d'accord. Alors après, maintenant, il y a d'autres technologies, c'est-à-dire les voitures hybrides qui se rechargent elles-mêmes en roulant, etc. Donc ça, mais parfois, le bon sens, le climatiseur chauffage électrique, peut-être qu'une isolation de la maison, ça serait préférable. Des choses comme ça qui sont faisables à notre échelle de citoyens. Et puis, lorsqu'on nous demande notre avis, allons-y. Et donnons-le le plus fort possible. Je crois que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à tout le monde. Quand on ouvre une enquête d'utilité publique, nous, on transfère l'information. Mais allez-y et dites-le. Voilà.
Donc, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc d'une réaction d'une auditrice qui demandait s'il était possible d'inviter dans une émission la CRIRAD.
Oui, bien sûr. Alors, pour France Nature Environnement, effectivement, on est tellement dans des thématiques différentes alors on a des spécialistes un peu dans chaque domaine, mais en effet, je suis toujours ouverte à ce que quelqu'un vienne compléter et améliorer les informations que je donne, etc. Bon, l'idée, c'était aussi de donner notre position, parce que sur le département, les énergies renouvelables commencent à se développer et on dit souvent « Ah oui, mais les écologistes, ils n'en veulent pas parce que c'est pas joli dans le paysage. Les écologistes, ils n'en veulent pas parce que ça prend des terres agricoles. » Aussi là. C'est faux. Je veux dire, pour nous, il y a quand même une priorité, c'est de diminuer le nucléaire pour essayer d'aller vers quelques formes d'énergie préférables. Alors, avec des nuances, etc. Mais il n'est pas question de dire non, on ne veut pas du photovoltaïque parce que ce n'est pas beau dans le paysage, ou bien on ne veut pas de l'éolien parce que... Qu'on soit clair là-dessus.
Martine et Françoise, je vous remercie. Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. On retrouvera cette émission sur notre site www.fréquencemistral.com sur l'onglet de Digne, intitulé donc Un moment pour la Terre, avec ce sujet toujours difficile. Merci, et
merci
puis
merci,
au mois prochain.
Et au revoir.
Et puis évidemment, si des auditeurs ont envie de réagir, envoyez-nous des messages sur digne@fréquencemistral.com pour nous donner votre avis. Au revoir.
Au revoir.